France Inter, Ali Badou, 15 minutes de plus.
15 minutes de plus et ce vendredi matin, j'ai le bonheur de recevoir l'un de nos grands historiens spécialistes de la démocratie athénienne. Il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de Périclès, la démocratie athénienne à l'épreuve du grand homme et d'un livre Athènes 403, une histoire chorale disponible chez Flammarion en poche et qu'il a coécrit avec Paulin Ismar. Bonjour Vincent Azoulay. Et bienvenue. Comme tous les vendredis, on va démarrer avec une expérience de pensée dans la peau de Périclès, dans la peau de celui qui était sans doute le plus grand des Grecs, le plus grand des Athéniens, mais on en parlera tout à l'heure. On est dans sa peau, en pleine guerre du Péloponnèse. On est en 431 avant notre ère. Ennemis jurés, Athènes et Sparte n'en finissent pas de s'affronter. Les Spartiates sont aux portes d'Athènes et Périclès se fait hué à l'Assemblée. À quoi est-ce qu'il pense, Vincent Azoulay, et pourquoi se fait-il huer ?
Il pense certainement que les Athéniens sont un peuple difficile à manier. Il faut imaginer un face-à-face physique hein, entre l'orateur et les Athéniens qui sont sur l'Apnix, sur une colline en plein air, il fait chaud, la colline est bondée, il y a quoi, 4000, 6000 personnes à qui il faut s'adresser et qui vont décider de la guerre et de la paix directement. Donc il doit se dire, c'est difficile. En même temps, il en a vu d'autres. Il a 65 ans. Il a été réélu de nombreuses fois stratège. Il a une maîtrise de l'art oratoire exceptionnelle. Donc, il a des atouts avec lui. Mais en même temps, il est sous tension.
Il est sous tension.
Ah oui.
Et qu'est-ce qu'il cherche à obtenir ?
Alors, il cherche à obtenir qu'on suive la stratégie qu'il a conseillée aux Athéniens, c'est-à-dire accepter la relative faiblesse d'Athènes sur Terre. Ils sont supérieurs sur les mers aux Spartiates, mais sur Terre, les Spartiates sont plus forts et les Athéniens doivent accepter de rester en ville, derrière leurs murailles, et de profiter de leur empire pour faire face aux assauts des Spartiates. Donc il doit les convaincre que c'est pas si grave que cela, que leur champ soit ravagé, que s'ils tiennent, la lumière sera à l'horizon.
Périclès, c'est une figure quasiment de héros. En tout cas, c'est le grand homme de la Grèce antique par excellence, fils de Xantippe. Il monte à la tribune. À cette époque, il était le premier parmi les Athéniens, le meilleur en parole et en action. C'est ce qu'écrit de lui l'historien Thucydide lorsqu'il présente le dirigeant athénien au moment où la cité est au point de s'effondrer quand elle est en guerre contre Sparte. À ce moment-là, Thucydide, donc l'un des pères de votre discipline, l'histoire, définit les deux domaines qui font la supériorité et la grandeur de l'homme politique, la parole et l'action. Ce sont ces deux critères-là qui font la grandeur.
Oui, parce que Périclès, qui n'est pas seul, hein, il y en a d'autres, il est à la fois stratège, c'est-à-dire qu'il conduit l'armée, c'est l'action. Et en même temps, il est un orateur exceptionnel.
Parce qu'il faut pouvoir s'adresser à 4000 personnes, il faut rappeler quand même qu'il n'y avait pas de moyen de pousser sa voix.
Mais non, il n'y a pas de micro.
Il n'y a pas de micro.
On est en plein air, il y a du vent. Si vous allez sur l'Apnix à Athènes, vous verrez à quel point c'est difficile déjà de s'adresser à 50 personnes.
Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'être orateur dans une démocratie comme Athènes ?
Être orateur, ça veut dire être capable de persuader le peuple. En lui donnant des conseils, sachant qu'à la fin des fins, c'est le peuple qui tranche. Et ça, c'est très différent par rapport à nos propres sociétés, parce que si l'orateur ne convainc pas, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, c'est le peuple qui, à la fin, vote.
Périclès, donc, stratège, et qui incarne l'orateur par excellence, il est doué d'une rhétorique, comment la qualifier ? Elle est à la fois pédagogique, elle est à la fois autoritaire, les sources anciennes n'ont cessé de mettre en scène ce pouvoir oratoire qu'il avait et qui était presque divin. Qu'est-ce qu'il utilisait comme artifice dans son discours pour convaincre cette assemblée démocratique de ce petit peuple des Athéniens, ceux qui étaient en droit de décider des affaires de la cité ?
On aimerait le savoir. C'est vrai qu'on dit que sa rhétorique était divine, et d'ailleurs on l'appelait l'Olympien, c'est-à-dire comme Zeus, hein, il a cette capacité de contraindre avec sa langue, contraindre le peuple avec sa langue. Et c'est effectivement quelque chose qu'on lui attribue. Après, il faut relativiser un peu, c'est-à-dire que même le meilleur orateur ne peut véritablement convaincre le peuple sur le long terme si sa parole ne s'ajuste pas aux intérêts des Athéniens. Hein, il ne faut pas penser à un pouvoir réellement magique, ça c'est la vision des sources. Oui. En réalité, il fallait qu'il convainque et ce qu'il devait dire ne pouvait pas être trop en décalage avec les attentes populaires.
Élu, réélu, il est souvent présenté, Périclès, comme le chef de l'âge d'or de la démocratie athénienne. Vous dites qu'il était exceptionnel. Exceptionnel et pour deux raisons. Alors d'abord, le nombre de ses réélections à la stratégie, qui est une sorte de magistrature. Et puis...
Sa parole, toujours sa parole oratoire, celle qui engourdit presque l'orateur et l'amène à voter dans le sens conseillé par Périclès.
Mais on y revient, mais surtout parce qu'il y a un mode d'élection, c'est-à-dire que selon de nombreux historiens, il a été élu par l'ensemble des Athéniens et pas uniquement par un clan ou par une tribu ou par un petit groupe de ses amis.
Oui, oui, tout à fait, parce qu'on était élu, alors jamais... pour un an. Hein. Il fallait ensuite être réélu et après avoir rendu des comptes. Donc il fallait reconvaincre sans cesse le peuple de vous accorder sa confiance.
14 fois.
14 fois, au moins 14 fois d'affilée, mais certainement une vingtaine au cours de sa longue carrière.
Il est à l'origine de plusieurs grandes réformes. Alors, on a parlé du chef de guerre, on a parlé de l'orateur, mais il est à l'origine aussi de réformes qui concernent notamment la mise en place d'une indemnité journalière de présence au sein des assemblées. C'est-à-dire qu'il fallait permettre aux Athéniens les plus pauvres et ceux qui résidaient le plus loin de la cité de pouvoir participer à la décision collective. L'historiographie, elle a très longtemps valorisé le siècle de Périclès. Avec le recul aujourd'hui et le travail de l'historiographie, il faut relativiser.
Alors, oui, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, il est à l'origine de cette formidable réforme, l'indemnité de participation, ce qu'on appelle le mistos. Alors, pas pour l'Assemblée, ça va être un petit peu plus tard, mais pour les tribunaux populaires. Et c'est quand même très intéressant parce que la démocratie, ça a à voir avec le contrôle des élites. Et y compris de Périclès lui-même. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Périclès a été jugé, a été condamné. Et a une amende équivalent à plusieurs millions d'euros qui l'amène à se taire pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce que les Athéniens reviennent le chercher.
Il a été menacé d'être chassé de la cité.
Tout à fait. Et ça ne s'est pas joué certainement à beaucoup, et il a été condamné par les tribunaux populaires dont il avait favorisé le pouvoir par la participation des citoyens les plus pauvres. Donc, ce Périclès, il a joué le jeu de la démocratie jusqu'au bout.
Alors, le grand homme et la démocratie, c'est un sujet majeur et qui résonne encore aujourd'hui. On va écouter une archive. C'est le philosophe Cornelius Castoriadis qui parle de la démocratie athénienne. C'est une archive INA du 19 juin 1992.
Le refus de toute hétéronomie, hein ? Le refus de l'autorité d'une parole qui aurait été transmise par des prophètes. Les Grecs n'ont pas de prophètes. Ils ont des poètes. Et ça, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'ils ont pu commencer la liberté. Ils n'avaient pas de prophètes, il n'y avait pas de parole divine. Il y avait des oracles, c'est autre chose. Mais les oracles vous disaient s'il faut prendre le bateau, s'il ne faut pas prendre le bateau. Ils ne vous disaient pas ce qu'il faut faire dans les affaires vraiment importantes dans la vie.
Ça vous fait sourire, Castoriadis, qui dit qu'Athènes n'avait pas de prophètes. Et c'est ce qui caractérise la démocratie athénienne, mais la démocratie tout court.
Oui, non, ce qui me fait rire, enfin au sourire, c'est le ton presque à la Lucchini. Mais autrement, c'est effectivement, il a tout à fait raison. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de texte sacré, il n'y a pas de clergé à proprement parler. Et effectivement, la démocratie athénienne s'interroge sur ses valeurs fondamentales à travers la poésie qui est offerte au théâtre, le théâtre de Dionysos, donc au dieu, mais au peuple.
Oui.
Le peuple qui se réunit à l'assemblée, mais aussi au théâtre, pour s'interroger s'interroger sur les questions fondamentales de la communauté, mais à distance, à travers des héros.
Est-ce qu'on a tort de penser que Athènes, c'est le berceau de nos démocraties, de la démocratie, même comme type de régime? Alors, je ne sais pas si ça relève du mythe, mais la démocratie directe, sans représentants, avec des citoyens réunis, qui échangent, qui débattent, qui délibèrent avant de décider, ça reste l'idéal démocratique pour beaucoup. C'était comme ça.
Oui, c'était comme ça. C'était comme ça. Et alors, est-ce que c'est nos grands ancêtres? Certainement pas. En tout cas, pas directement. Il ne faut pas oublier que les révolutionnaires, français comme américains, détestaient la démocratie athénienne. Ils n'avaient Dieu que pour Sparte et pour Rome. La démocratie athénienne, c'est une histoire qui commence véritablement au milieu du 19e siècle. Enfin, l'histoire d'amour avec la démocratie athénienne. Hein, et
oui.
On ne comprend rien à la démocratie démocratie entre guillemets américaine, si on ne se souvient pas que les pères fondateurs, justement, ne voulaient pas donner la parole à la populace. D'où ces scrutins qu'on n'arrive pas aujourd'hui à comprendre, où tout est fait pour que le peuple, en réalité, ne puisse pas directement, en tout cas, administrer les affaires de la communauté.
Et qu'il puisse élire des représentants.
Voilà,
c'est qu'il délègue son pouvoir, voilà, et sa souveraineté.
C'est un système représentatif. Du point de vue d'un Athénien du 5e ou du 4e siècle, nous ne vivons pas en démocratie. Nous vivons dans des oligarchies libérales, ce qui est déjà bien, mais certainement pas en démocratie, là où le peuple peut administrer lui-même ses propres affaires.
Quittons Périclès, Athènes 403, c'est une histoire chorale et c'est un livre absolument passionnant. Sur ce moment justement où la démocratie athénienne est renversée, vous racontez cette période à travers l'importance du cœur. Le cœur, comme on en parle au théâtre ou à l'opéra pour les Grecs, c'est une métaphore, mais c'est quelque chose qui est extrêmement profond, ancré dans la vie des Athéniens collectivement. Pourquoi ?
Parce que ça correspond à une pratique sociale très enracinée. Il y avait chaque année au moins 1000 citoyens ou jeunes garçons qui allaient le devenir, qui faisaient partie des chœurs qui chantaient et dansaient pour Dionysos, dans le théâtre, et c'était très très important. Même les hommes, donc ça faisait 500, c'est déjà beaucoup, hein, étaient exemptés de service militaire. C'est dire à quel point chanter et danser pour la communauté était une activité essentiel.
Autrement dit, ce qui fait société, ce qui est essentiel à la démocratie, c'est ce qu'on appelle la choralité, pouvoir faire cœur.
Oui, pouvoir faire cœur, c'est toutes ces pratiques qui permettent de créer des formes d'identité partagée, d'un sentiment d'appartenance, et ça passe par le chant et la danse.
La morale de l'histoire, vous bossez sur l'ostracisme en ce moment, et c'est vrai que c'est quelque chose d'absolument incompréhensible aujourd'hui. Comment est-ce que les Athéniens pouvaient en venir à chasser le meilleur et le plus grand d'entre eux? Comment est-ce que on peut comprendre que le plus grand des citoyens puisse être exilé de la cité, ne plus participer aux affaires courantes alors qu'il est au sommet de sa gloire? Et ce sera la fin.
D'abord, il le faisait pas beaucoup. C'est peut-être déjà une première raison. Et ensuite, c'était par peur du retour de la tyrannie. Mais ça avait cet effet extraordinaire de domestiquer les hommes politiques qui vivaient, malgré tout, sous tension.
Merci infiniment Vincent Azoulay d'avoir été l'invité de ces 15 minutes de plus. Athènes 403, une histoire chorale, c'est donc publié chez Flammarion.